comme si un vent de méchanceté soufflait sur la face de la terre. Partout aujourd'hui, les humains sont entraînés dans l'état d'esprit diabolique qui consiste à faire ce qui est droit à leurs yeux. Les témoins de Jéhovah sont très différents. Ils sont voués à Jéhovah pour faire ce qui est droit à ses yeux. La parole de Dieu nous donne ce conseil avisé. Ne deviens pas sage à tes propres yeux. Crains Jéhovah et détourne-toi du mal. Dieu sait que notre cœur imparfait peut nous entraîner dans une voie qui mène à la catastrophe spirituelle. C'est pourquoi il donne cet avertissement. Toute voie de l'homme est droite à ses propres yeux, mais Jéhovah jauge les cœurs. Pour éviter le malheur spirituel, il nous faut par conséquent craindre Jéhovah de tout notre cœur et avoir l'entière confiance qu'il nous aidera à faire ce qui est droit. Il nous faut mener un genre de vie qui lui plaise. Il semble que cela soit difficile pour la plupart des gens aujourd'hui, surtout pour les jeunes. L'adolescence est un stade de la vie où, dans certains domaines, on croit tout savoir, alors que dans le même temps, on doute de soi et on a des craintes. Certains jeunes laissent leurs craintes les retenir de faire ce qui est droit aux yeux de Dieu, c'est-à-dire se vouer à lui et se faire baptiser. Pourquoi ? Il en est qui ont peur des responsabilités. Que peut-on faire pour les aider, eux et d'autres plus âgés qui hésitent à se faire baptiser ? Comment peut-on leur apprendre à faire davantage confiance à Jéhovah et à chasser leurs craintes? Le drame que vous allez suivre peut être d'une grande aide. Le cadre, dans une salle d'assemblée, pendant la pause entre deux sessions. L'époque, l'été 1991. Puisse ce drame encourager chacun de nous à faire ce qui est droit aux yeux de Jéhovah.
Félicitations, Thierry.
Nous sommes vraiment fiers que tu te sois fait baptiser.
Merci beaucoup, Sabine. Merci, Thomas. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait.
J'ai pris une photo de toi juste au moment où tu remontais de l'eau. Tu voudras peut-être la faire encadrer.
Ah, bientôt, ce sera toi et Sabine qui vous ferez baptiser. Ce jour-là, Thomas, il faudra que je te prenne en photo.
Tu risques d'attendre longtemps.
Que veux-tu dire ?
Je ne pense pas que je sois prêt pour le baptême.
Oui, c'est pareil pour moi. Je suis trop jeune.
Que Jéhovah te bénisse, Thierry.
Oh, merci, frère Berger.
Je t'ai vu assis parmi les 25 candidats au baptême ce matin, et ça m'a fait vraiment plaisir.
Notre circonscription grossit vite, n'est-ce pas, frère Berger ?
Non, c'est vrai, Sabine. On dirait que partout où l'on regarde, les serviteurs de Jéhovah sont en progrès. Tiens, l'an dernier, nous avons eu le plus gros chiffre de baptisés depuis 1974.
Hé, en 74, j'avais 1 an.
Oh, mais ça fait 18 ans, ça ! Je n'étais même pas née.
Et j'ai compté 11 frères et 14 sœurs aujourd'hui. Toi qui es le surveillant de notre circonscription, tu dois être content.
Il y avait des jeunes et des adolescents et plusieurs autres personnes plus âgées.
J'ai été très ému de voir Madame Brun se faire baptiser.
Elle étudie avec Hélène, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Je me rappelle, la première fois qu'elle est venue à la salle, il y a juste 1 an, Eh bien, elle m'avait dit qu'elle avait 74 ans. Et aujourd'hui, la voilà baptisée.
Thomas, tu en as 18, toi, non? Et tu assistes aux réunions depuis que je visite ta congrégation.
Oui, frère berger. Tu es arrivé dans notre circonscription à l'époque où mes parents ont arrêté d'étudier, il y a 2 ans.
Ainsi, tu viens aux réunions tout seul. C'est bien, Thomas. Et je suis sûr que tu penses à te vouer à Dieu et à te faire baptiser.
Ah, je sais ce que tu vas demander ensuite. Quand je vais me faire baptiser? Pour être franc avec toi, je ne me sens pas prêt.
Pourquoi dis-tu cela? Est-ce parce que tu n'es pas sûr que les croyances des témoins de Jéhovah soient la vérité?
Oh non, frère berger, non, non. Je suis convaincu que nous avons la vérité. C'est seulement que, eh bien, je ne veux pas me faire baptiser. Et puis, vois-tu, avoir ensuite des ennuis.
Alors, c'est parce que tu doutes de toi. Et peut-être as-tu peur de ne pas arriver à accorder ta vie aux normes morales de Dieu.
C'est un peu ça. Je ne veux pas abandonner Jéhovah ni mes amis dans la congrégation.
J'ai pensé ça à un moment donné.
Ah bon?
Oui. Je savais que je ferais ce qui est droit aux yeux de Jéhovah si je me faisais baptiser. Mais je doutais de moi, comme frère berger a dit. J'ai néanmoins surmonté mes doutes.
Et toi, Sabine? Tu as été élevée par des parents baptisés. Est-ce que toi aussi tu doutes de toi?
C'est un peu ça. Mais je pense que je suis trop jeune pour me faire baptiser de toute façon.
Pourtant, Sabine, tu as déjà 13 ans?
Non, j'ai 13 ans et demi.
Frère berger, crois-tu que 13 ans, ce soit trop jeune pour se faire baptiser?
Tout dépend de la personne, de sa constitution affective et spirituelle. On ne se fait pas baptiser parce que ses amis se font baptiser. Non, on se fait baptiser parce que les bonnes relations qu'on entretient avec Jéhovah sont devenues ce qui compte le plus dans la vie. Quelques jeunes seulement remplissent les conditions requises pour le baptême avant l'âge de 13 ans, et d'autres sont prêts un peu plus tard. Mais la plupart se font baptiser en fin d'adolescence, surtout ceux qui ont été élevés par des parents témoins de Jéhovah.
Bonjour, frère berger. Bonjour, Sabine. Bonjour, Thomas. Je voulais dire à Thierry que ça m'a fait plaisir de le voir parmi les baptisés. Oh, mais excusez-moi, j'espère que je n'ai pas interrompu une conversation importante.
Nous parlons d'âge et de baptême.
Et si on demandait à Hélène, notre pionnière, à quel âge elle s'est fait baptiser?
J'avais 14 ans.
Et tu ne te trouvais pas trop jeune?
Non, pour moi, ce n'était pas trop jeune. Vous savez, mes parents m'ont toujours présenté le baptême comme un objectif à atteindre. Bien sûr, j'en ai aussi parlé avec les anciens de ma congrégation.
Et n'as-tu jamais eu peur de ne pas arriver à vivre selon les conditions requises d'un témoin baptisé?
Oui, j'y pensais. Mais j'étais déterminée à faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Et le baptême m'a aidée à passer mes années de scolarité.
Explique-nous, Hélène.
Eh bien, du fait que je me savais vouée à Jéhovah, j'avais une forte motivation pour fuir les mauvaises influences à l'école. Et quand je rencontrais des tentations, je me souvenais que j'étais un témoin voué et baptisé. Et quand des camarades me demandaient de faire des choses douteuses ou mauvaises, je leur disais que je ne pouvais pas faire comme eux, parce que j'étais un témoin baptisé.
Et ils se moquaient de toi?
Oui, oh, quelques-uns. Mais la plupart respectaient mes croyances.
Donc, la solution pour surmonter ces doutes, c'est d'être convaincu des notions bibliques apprises et de vivre selon ses convictions.
Dans mon cas, frère berger, c'est sans doute plus facile à dire qu'à faire. Tu sais bien, mes parents ne sont pas croyants.
Tu peux y arriver, Thomas, si tu es disposé à étudier assidûment et à appliquer ce que tu apprends. Qu'est-ce qui me permet de parler ainsi? Le fait que cela ait été possible pour moi. Vois-tu, quand j'étais jeune, mes parents, quoique témoins baptisés, n'étaient pas très actifs dans la vérité.
Ah bon? Je ne le savais pas.
Ça veut dire que, quand tu avais notre âge, toi aussi tu avais des craintes?
Beaucoup d'adolescents passent par les mêmes sentiments, Sabine.
Et qu'est-ce qui t'a aidé, frère Berger ?
Les anciens, la congrégation et mon histoire préférée.
Ton histoire préférée ? Attends, l'histoire de Samson.
David et Goliath ?
Non, non, Josias. L'histoire du roi Josias. Il n'avait que 8 ans quand il est devenu roi. Pourtant, le règne de Josias fut l'un des plus remarquables dans l'histoire du royaume de Juda. Le père et le grand-père de Josias furent de très mauvais exemples dans le domaine du vrai culte. Mais le règne de Josias fut un bon règne. Josias avait 15 ans quand il commença à rechercher sérieusement le vrai Dieu. Et 19 ans quand il lança une énergique campagne contre l'idolâtrie. Il avait 25 ans lorsqu'il ordonna la réparation du temple de Jéhovah et l'élimination de tout faux culte dans la nation.
Tu as dit que son père donnait un mauvais exemple dans le culte ?
Oui, et son grand-père aussi.
Et tu as dit qu'il n'avait que 8 ans quand il est devenu roi ?
Josias était âgé de 8 ans quand il commença à régner, et pendant 31 ans, il régna à Jérusalem.
Je suis plus fort que toi, Josias.
Non, ce n'est pas vrai, Enan.
Si, c'est vrai.
Un chien sans dents tirerait plus fort que toi, Enan.
C'est faux, mon seigneur. Alors... es-tu prêt maintenant à t'avouer vaincu, mon seigneur ?
Jamais ! Non, je ne céderai jamais !
Eh bien, prépare-toi à perdre, Josias !
Mes garçons, assez joué pour l'instant. Et non, ton père, Pashur, voudrait te voir. Et Josias, il est presque l'heure de ta leçon sur l'histoire des rois. Ton précepteur arrive bientôt.
Bonne journée, Elkia. Au revoir, Josias. Ouais, c'était bien de jouer avec toi. Mais je te montrerai un jour que je suis le plus fort.
Ilkia, tu n'as pas l'air content.
Et non, un mauvais état d'esprit. Et je ne suis pas sûr qu'il soit une bonne fréquentation pour toi.
Mais Pashur, son père, est prêtre, comme toi.
C'est vrai, mon fils. Et Pashur a des capacités remarquables. Mais parfois, il est tout près d'imiter les coutumes des nations, ce qui est dangereux. Malheureusement, Enan lui ressemble beaucoup.
Eh bien alors, avec qui je vais jouer ? Ne suis-je pas roi ? Ne puis-je pas choisir mes compagnons ?
Bien sûr que tu es roi, mon seigneur, et je ne suis qu'un humble prêtre. Un jour, ta parole sera loi. Mais pour l'instant, je suis chargé de m'occuper de toi, et je dis ce que je pense. Tu peux jouer avec Ahikam. C'est un garçon qui aime profondément Jéhovah, et son père, Shaphan, est fonctionnaire à ta cour. C'est un homme qui est profondément attaché à Jéhovah. Essaie de t'entourer de ceux qui veulent vraiment plaire à Dieu.
Mais je veux être un roi fort et vaillant. Et Pashur nous a dit, à Enan et à moi, que l'exercice développera notre force.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Seulement, rappelle-toi bien de cela. Un corps sain t'aidera à être fort au combat, mais être roi, c'est plus qu'être un guerrier. Pour réussir, il faut quelque chose de bien plus important que la force physique.
Qu'est-ce que c'est, Ilkia ?
La piété. La piété est utile à tout. Ton attachement à Jéhovah t'aidera à faire toujours ce qui est droit à ses yeux. Les plus beaux souvenirs de la maison royale de Juda sont liés au nom de David, de Josaphat et d'Ézéchias, des hommes qui servaient Dieu.
Oui, je sais. J'ai étudié leur vie dans mes leçons d'histoire.
Eh bien, songe particulièrement à la vie du deuxième roi de notre nation, David, et à son attachement sincère à Jéhovah.
David était fort. Il a tué un ours et un lion.
Oui, mais d'où venait sa force en réalité? N'était-ce pas de Jéhovah? Rappelle-toi ce qu'il a dit au méchant géant Goliath. « Je viens à toi avec le nom de Jéhovah des armées. » David a été un bon chef, parce qu'il avait totalement confiance en Jéhovah, et par-dessus tout, parce qu'il faisait montre de piété.
Et mon père, est-ce qu'il était pieux? A-t-il fait ce qui est droit aux yeux de Jéhovah?
Pourquoi cette question, mon fils?
J'aimais mon père, mais ses fonctionnaires de cour l'ont tué. Ilkia, est-ce qu'il a été un mauvais roi?
Tu sais, Amon, ton père, a bien subvenu à tes besoins matériels. En ce sens, on peut dire qu'il fut un bon père. Mais en ce qui concerne le vrai culte de Jéhovah, eh bien, ça, il l'a négligé. Il n'a pas fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Ton père a laissé à Juda et à Jérusalem un affreux souvenir et une lourde charge de péché devant Jéhovah.
Et mon grand-père, Manassé, lui aussi a été un mauvais roi, n'est-ce pas? Ilkia, est-ce que moi aussi je deviendrai un mauvais roi?
Mon fils, tout dépend de la profondeur de ton amour pour Jéhovah.
Mais je l'aime de tout mon cœur et de toute mon âme.
Alors, tu dois montrer cet amour en suivant de près les commandements de Jéhovah, même si à cause de cela tu ne plais pas à certains. Et tu ne dois pas compter sur ta propre sagesse. Tu peux être un bon chef. Tiens, ton grand-père, Manassé, s'est humilié devant Jéhovah et a reconnu son péché, et il lui a été pardonné. Mais ton père n'a pas fait cela.
Dis, tu m'aideras à faire ce qui est droit aux yeux de Jéhovah?
Excuse-moi, monseigneur. Ilkia, on a besoin de toi au temple maintenant. Je pense que Josias peut se passer quelques heures de ta bienveillante influence.
Pas sûr. Qui t'a commandé?
Oh, j'essaie simplement de t'aider. Toi qui es prêtre comme moi. Après tout, tu n'es pas encore le grand prêtre.
Pas sûr. Josias attend son précepteur. Veille à ce qu'il soit à l'heure pour sa leçon. Nous continuerons notre discussion plus tard, Josias. Excuse-moi.
Enan m'a dit qu'il aime bien jouer avec toi. Et c'est un bon garçon. Chaque jour, il monte à la chambre du toit d'Akaz pour voir comment on fait les offrandes à l'armée des cieux. De cette façon, il élargit sa connaissance des mœurs des autres peuples. Un bon roi se renseigne sur les coutumes différentes des siennes. Alors, pourquoi ne viens-tu pas avec lui? Juste pour voir, bien entendu. Je sais qu'Enan t'a déjà invité. Pourquoi n'es-tu pas venu avec lui? Est-ce parce que Ilkia t'a dit du mal de mon fils?
Ilkia m'a dit que Jéhovah a autorisé le culte uniquement dans le temple et pas sur des autels étrangers, sur les toits.
Bah! Ilkia fait une interprétation trop stricte de la volonté de Jéhovah. Et puis, est-ce que Ilkia t'a aussi dit que ton père et ton grand-père ont encouragé le peuple à se prosterner devant l'armée des cieux, à la chambre du toit d'Akaz, et que ce culte fait partie de l'histoire d'Israël depuis 100 ans? Est-ce qu'il t'a dit que l'autel et le haut lieu que Jéroboam a bâti à Bethel servent depuis plus de 300 ans?
Non, non, mais il m'a dit que le roi Jéroboam a fait pécher Israël.
Écoute, Josias, si Jéhovah n'avait pas approuvé ce culte, il ne l'aurait pas laissé continuer si longtemps. Et puis, il n'y a aucun écrit qui condamne ce culte. Et il plaît énormément au peuple. Un bon chef ne veut pas rendre ses sujets malheureux. Alors, pourquoi ne pas accompagner Nan quand il ira à la chambre du toit d'Agaz? Ce sera pour t'instruire, bien sûr.
Est-ce que ça m'aidera à être un bon roi?
Excuse-moi, monseigneur, ton précepteur est là. Il t'attend pour t'amener à ta leçon d'histoire.
Et dans la 8e année de son règne, alors qu'il était encore un garçon, Josias commença à rechercher le Dieu de David, son ancêtre.
Tu as bien tiré aujourd'hui, monseigneur.
Oh, pas si bien que toi, Enan. Il n'a manqué la cible que deux fois.
Merci, monseigneur. Sais-tu, tu ferais beaucoup mieux encore si je ne passais pas autant de temps avec ce prêtre, Ilkia.
Mais tu ne comprends pas. Je veux apprendre tout ce que je peux au sujet de notre Dieu Jéhovah. De quelle autre façon pourrais-je savoir ce qui est droit aux yeux de Jéhovah? Surtout que je n'ai pas de copie de la loi. Le livre de la loi a disparu de la cour royale voilà des années. Au moins depuis les jours de mon grand-père Manassé.
Oh, mais apprendre trop de choses sur Jéhovah, mais... Tu vas devenir fou. Nous sommes jeunes, nous n'avons que 15 ans. Il sera bien temps plus tard de s'intéresser plus sérieusement à Jéhovah.
Non et non. Non. C'est le moment maintenant, pendant que nous sommes jeunes et forts, de vouloir apprendre à faire la volonté de Dieu. Tu sais, certains des prêtres possèdent au moins des copies de quelques parties de la loi. C'est pourquoi je veux passer du temps avec eux. C'est de cette façon que je peux devenir un bon roi.
Oh, écoute, Pashur, mon père, est prêtre. Il ne me fait pas lire la loi. Je ne la lis que quand je veux. Et en plus, ce que les prêtres possèdent, ce ne sont que des copies du livre de la loi. Ce n'est pas l'original.
Rachète plus de temps pour lire, Enan. Ainsi, tu ne manqueras pas de plaire tout à fait à notre Dieu.
Mais je plais à Dieu. Je me rends au lieu, même celui qui est à Bethel au nord. Tiens, tu devrais m'accompagner quelquefois.
Non et non. Jéhovah veut que nous utilisions l'autel et la prêtrise seulement à Jérusalem.
Mais non. Certains des prêtres lévitiques officient au lieu depuis Guiba jusqu'à Beersheba. Et en plus, où est-il ordonné d'adorer uniquement Jérusalem?
Ilkia m'a dit que c'est écrit dans la loi.
Comment peux-tu croire la copie de la loi que Ilkia possède? Tiens, qui te dit qu'il n'a pas changé la loi dans un but égoïste?
Bon, assez parlé, et non. Écoute, je pense qu'il vaut mieux que tu partes.
Comme tu voudras, monseigneur. Bonne journée, monseigneur.
Tu as l'air contrarié, Josias.
Ah, c'est Enan. Il est rempli du vent d'est brûlant.
Et je croyais que tu avais cessé de le fréquenter.
C'est ce que j'ai fait. Mais pas complètement. Nous nous voyons encore pour mon entraînement au tir à l'arc. Mais aujourd'hui, c'est la dernière fois. J'aime beaucoup plus la compagnie d'Ahikam. Même s'il n'est pas aussi bon archer qu'Enan. Ahikam veut faire ce qui est droit aux yeux de Jéhovah. Et nous sommes devenus des amis intimes, comme David et Jonathan.
Ah, je vois que tu as étudié l'histoire du règne de David.
Oui, et j'ai aussi appris les paroles et la musique de ses psaumes.
Alors, tu te souviens du psaume de David qui commence ainsi ? Juge-moi, ô Jéhovah, car moi, j'ai marché dans mon intégrité et en Jéhovah, j'ai mis ma confiance, pour que je ne vacille pas.
Oui. D'ailleurs, les deux strophes suivantes disent...
Examine-moi, ô Jéhovah, aimez-moi à l'épreuve, affine mes reins et mon cœur, car ta bonté de cœur. J'ai marché dans ta vérité.
Ah, j'aime ces paroles.
Dans ce cas, dis-moi la strophe suivante. Je commence. Je ne me suis pas assis avec les hommes de fausseté.
Et avec ceux qui cachent ce qu'ils sont.
Je n'entre pas. J'ai haï l'assemblée des malfaiteurs, et avec les méchants, je ne m'assieds pas. Mais oui, j'ai compris. Hénan est un traître. Il dit être attaché de toute son âme à Jéhovah, mais il recherche la faveur du peuple, même des prêtres étrangers. Au lieu de la faveur de Jéhovah. Je jure que je ne le fréquenterai plus tant qu'il ne changera pas sa façon de penser.
Tu as commencé à t'entourer d'hommes de valeur, des hommes qui aiment Jéhovah, comme Ahikam et Jérémie et ton cousin Sophonie. C'est très bien, Josias. Je t'encourage à le faire plus pleinement.
Tu sais, ce même psaume de David me fait aussi penser au temple.
Jéhovah, j'ai aimé la demeure de ta maison et le lieu de la résidence de ta gloire.
La maison de Jéhovah a perdu sa gloire. Elle tombe en ruine. Je vais ordonner à Chafan de commencer une collecte pour faire les réparations.
Tu sais, tu devrais peut-être d'abord restaurer la raison d'être du temple, le vrai culte dont il est le centre.
Oui, c'est vrai. Le culte pur de Jéhovah doit avoir la priorité. Mais par où commencer ? Et suppose que le peuple s'élève contre ma réforme et se rebelle.
C'est toi, ô roi, qui dois commencer. Tu dois montrer à tes sujets que tu es vraiment voué à Jéhovah, que tu es déterminé à accomplir sa volonté, et alors le peuple suivra. Rappelle-toi, où va le berger, le troupeau suit.
Ilkia, je veux être un bon guide, pas comme mon grand-père et mon père.
Oh, tu as déjà commencé différemment de ton grand-père et de ton père. Pendant ces 8 dernières années, tu as marché dans la voie de ton ancêtre David, un homme selon le cœur de Jéhovah.
Mais suppose que le peuple commence à voir que je suis fermement résolu à rétablir le culte pur, et qu'ensuite, je tombe dans un grand péché, comme mon père Amon. Tiens, même David a commis un grand péché.
Ah, mais Amon, ton père, a fait pire que péché. Il a refusé de reconnaître son péché et de s'humilier devant Jéhovah. Par contre, David n'est jamais retombé dans ses deux plus graves fautes. Pour toutes ses fautes et ses grands péchés, David a toujours manifesté la condition de cœur qu'il fallait, en se repentant et en demandant pardon à Jéhovah.
Oui, c'est vrai. Même mon grand-père, qui a fait sur une grande échelle ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, a obtenu le pardon de Jéhovah. Marque bien ce jour, Ilkia. À dater d'aujourd'hui, ma vie sera vouée à rétablir le culte pur. Je vais voir comment faire pratiquer le vrai culte depuis Geba jusqu'à Beersheba. Ilkia, va annoncer cette bonne nouvelle aux prêtres qui sont fidèles à Jéhovah.
J'ai vu Ilkia sortir précipitamment. Quelque chose ne va pas, monseigneur ?
Oh non, Pashur. Aujourd'hui, j'ai pris la résolution d'apprendre plus complètement la volonté de Dieu et de la mettre en pratique dans tout mon royaume.
Mais c'est une énorme tâche, monseigneur. N'es-tu pas en train d'entreprendre plus que ce qu'un jeune roi est capable de faire ?
Avec l'aide de Jéhovah, j'y arriverai.
Alors, il faut que tu accompagnes mon fils, Enan, pour implorer Jéhovah sur les hauts lieux.
Les hauts lieux n'ont pas l'approbation de Jéhovah, Pashur.
Oh, en es-tu certain, monseigneur ? Le peuple a l'habitude de sacrifier à Jéhovah sur les hauts lieux. Or, un bon chef ne veut pas contrarier ses sujets, ni les irriter. Hein ? Ne veux-tu pas que l'on dise que tu es un bon chef, Josias ?
Et dans la 12e année de son règne, Josias commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux et des poteaux sacrés et des images taillées et des statues de métal fondu.
Pourquoi Josias nous a-t-il convoqués, Chafan ?
Il sait qu'il y a sagesse dans la multitude des conseillers.
Peut-être qu'il veut maintenant réparer le temple, Ilkia, et qu'il a besoin de ton avis, puisque c'est toi le grand prêtre à présent.
Oh, comme je le souhaite, Ahikam. La maison de Jéhovah est mal utilisée et négligée depuis la mort d'Ézéchias.
Et en plus, il n'y a pas d'argent pour cela, Ilkia. Des princes, des prêtres et le peuple réunissent de l'argent et de l'or pour eux-mêmes. Mais pour le service de Jéhovah, rien.
Ou peut-être a-t-il trouvé le livre de la loi, écrit de la main de Moïse.
Non. Non, ce livre n'est toujours pas dans le temple, Ahikam.
Alors, peut-être a-t-il peur de la prophétie de Sophonie, qui annonce la destruction de Juda.
Mais mon fils, qui sait quand sera ce jour de fureur ?
Oui, tu as raison, père.
Ah, mes frères ! Mes frères !
La paix soit avec vous, mes frères.
Nous avons entendu que Josias allait peut-être prendre une décision d'importance aujourd'hui.
Vous deux, vous n'auriez pas dû vous éveiller si tôt ce matin.
Sottise ! J'ai le devoir de conseiller le roi.
Et n'oublie pas, je soutiens fidèlement Josias. Et depuis le jour où il s'est assis sur le trône, nous sommes les amis les plus intimes qui soient.
Tu es fidèle, Enan.
Oh, roi Josias.
Mais fidèle à quoi ? Ou à qui ?
Eh bien, mon père et moi avons fait autant que quiconque pour faire de Juda ce qu'il est aujourd'hui.
Et qu'est-ce que Juda aujourd'hui, Enan ?
Juda aujourd'hui, c'est un pays en paix. Oui. Oui. Oui, en paix parce que nous avons appris à nous adapter aux nations environnantes. Nous ne rejetons pas leurs coutumes ou leurs pratiques de façon aussi déraisonnable que certains voudraient nous voir le faire. En contrepartie, les nations, jusqu'ici, croient que nous avons un chef sage. Elle ne nous voit pas comme une menace et ne nous rejette pas.
Mais la question n'est pas de savoir si les nations nous rejettent ou non. C'est plutôt de savoir si Jéhovah nous rejette. Notre nation doit faire ce qui est droit aux yeux de Jéhovah. Et je dois donner l'exemple.
Mais le peuple fait toujours des serments à Jéhovah.
Et le même peuple fait des serments à Molech, la chose immonde des Ammonites. Jéhovah peut-il indéfiniment supporter que le cœur de son peuple soit partagé dans le culte qu'il lui rend?
Jéhovah n'agit ni en bien, ni en mal.
Pas sûr. Veux-tu dire que Molech fait quelque chose? Le peuple passe ses fils et ses filles par le feu pour Molech, à Tophet, dans la vallée des fils de Hinnom. Est-ce la façon de Molech de faire du bien?
Et Sophonie dit que Jéhovah va retrancher ceux qui servent Molech, au même titre que ceux qui cessent de suivre Jéhovah.
Nous ne servons pas Molech, jeune homme.
Produis tes témoins si tu dis que nous le servons. Produis des témoins. Ou alors tais-toi.
J'ai la conviction que Sophonie parle de la part de Jéhovah.
Et Sophonie dit aussi que Jéhovah tendra sa main contre Juda, Moab, Ammon et la Syrie.
Oui, les Assyriens ont détruit des nations pour des menaces moins graves.
Tu ne crois pas que le jugement de Jéhovah soit contre Juda, et non?
Je te le dis, Sophonie se trompe. Jéhovah n'inclura jamais son propre peuple dans un jugement contre les nations.
Si nous, le peuple de Jéhovah, ressemblons aux nations, si nous agissons et adorons Dieu comme elle, comment Jéhovah nous épargnera-t-il lorsqu'il les jugera, et non?
Mais son temple est au milieu de nous.
Un temple dont les réparations ont été négligées pendant presque 70 ans.
Et non. Tu dis que Jéhovah ne rejettera pas son peuple.
Oui.
Pourtant, il a permis que le roi Manassé, mon grand-père, soit emprisonné par les Assyriens. Et il a permis que mon père soit assassiné.
Oh, ce sont des choses qui arrivent dans n'importe quelle nation.
Les serviteurs de Jéhovah doivent-ils être comme n'importe quelle nation? Hilkia dit que nous n'avons pas fait les réparations du temple. Pourquoi?
Il n'y a pas d'argent.
Pourtant, je vois certains des prêtres qui s'habillent richement, qui construisent des maisons et plantent des vignes.
La prospérité vient de Jéhovah.
Pendant 4 ans, j'ai cherché à connaître Jéhovah et je l'ai interrogé. J'ai écouté les explications des Lévites à partir de leur copie du livre de la loi. J'ai étudié comment Jéhovah a agi envers nous dans le livre des rois de Juda et d'Israël.
Et connais-tu Jéhovah maintenant?
Oui, j'ai appris. J'ai appris, Hilkia, que Jéhovah ne tolère pas les hauts lieux, ni les autels des Baals.
D'ailleurs, tes ancêtres, Asa, Josaphat et Ézéchias, ont démoli les hauts lieux pendant leur règne, mon Seigneur.
Et Jéhovah a béni et fait prospérer tout le royaume durant leur règne.
Monseigneur le roi.
Parle, Pachur.
Je reconnais que tes ancêtres ont été des hommes entiers et qu'ils ont démoli les hauts lieux. Mais à chaque fois, le peuple les rebâtissait. Nous en prendre à ces hauts lieux maintenant pourrait être inutile.
Et ça coûterait cher. Si nous ne pouvons pas nous permettre de réparer le temple, comment pouvons-nous nous permettre de démolir les hauts lieux? Notre peuple ne pourra jamais supporter la dépense. Jamais.
Et non. Pouvons-nous continuer à risquer la colère de Jéhovah en tolérant les hauts lieux?
Oh, les hauts lieux ne sont pas si mauvais. Moi-même, je suis déjà allé à des hauts lieux. Simplement pour voir, attention. Eh bien, tout ce qu'on y fait, c'est d'offrir de l'encens et peut-être un petit sacrifice.
Ah non! Et le culte du sexe qu'on y pratique? Qu'est-ce que tu en fais?
Oh, tu n'as qu'à pas regarder si tu ne veux pas.
Et tu oses te tenir devant le roi? Et le grand prêtre? Et glorifier tes relations avec les nations?
J'ai l'esprit ouvert, moi.
L'esprit ouvert à quoi, Enan? À faire la volonté de Jéhovah ou la volonté des nations.
Mais qu'est-ce que tu me demandes là?
Le peuple de Jéhovah doit prendre position pour Jéhovah. Écrit Jaffa.
Ma plume est prête.
Juda et Jérusalem seront purifiés des hauts lieux et des poteaux sacrés, des images taillées et des statues de métal fondu. Ensuite, nous nous rendrons dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et jusqu'en Nephtali pour purifier le pays.
Les Assyriens sont maîtres de ce territoire maintenant.
Les Assyriens ?
Si nous sommes voués à Jéhovah pour faire sa volonté, qu'avons-nous à craindre de qui que ce soit ?
Mais la Syrie est si puissante ! Et Juda si petit ?
Et non, tu ne t'opposes pas au roi, n'est-ce pas ?
Eh bien, m'opposer au roi ? Non, jamais !
Quelque chose me dit qu'il y en aura qui rebâtiront les hauts lieux une fois que nous les aurons démolis.
Hélas, notre histoire le confirme.
Alors, ne faisons pas les choses à moitié. Les poteaux sacrés, les images taillées et les statues de métal fondu doivent être brisés en morceaux.
Même les morceaux, ça peut se réparer.
Alors, il faudra les réduire en poudre et répandre la poudre sur la surface des sépultures de ceux qui leur sacrifiaient régulièrement. Et les ossements de leurs prêtres, je les brûlerai sur leurs autels et les souillerai.
Eh bien, c'est écrit, monseigneur.
Alors, passons aux actes. Et que Jéhovah constate dans nos actes et dans nos cœurs que son peuple n'est pas comme les nations. Peut-être que si nous faisons ce qui est droit aux yeux de Jéhovah, nous serons cachés au jour de sa colère.
Et ainsi Josias démolit les autels et les poteaux sacrés, et il écrasa et réduisit en poudre les images taillées, et il abattit tous les autels à encens dans tout le pays d'Israël, puis il revint à Jérusalem. Et dans la 18e année de son règne, il envoya Chaphan pour réparer la maison de Jéhovah son Dieu. En outre, la parole de Jéhovah advint en ces jours-là à Jérémie, l'un des prêtres qui était à Anatote, au pays de Benjamin.
Je n'arrête pas de te le dire, père. La purge du roi qui dure depuis ces 6 dernières années est sévère. Mais pas autant que nous l'aurions cru. Toi qui es prêtre, tu sais bien que les ustensiles fabriqués pour Baal, le poteau sacré, même l'armée des cieux, sont toujours dans le temple de Jéhovah.
Et le poteau sacré de Manassé est toujours là ? Ainsi que les maisons des prostituées sacrées. Cependant, le roi a commencé à verser de l'or et de l'argent pour la réparation du temple. Est-ce que sa réforme va s'arrêter là ?
Y a-t-il encore quelque chose à réformer ? Ou bien, crains-tu qu'il ne trouve le livre de la loi ? Oh, il est perdu depuis si longtemps ! Je me demande si Moïse l'a jamais vraiment écrit.
Et néanmoins, plus Josias va de l'avant, plus il devient dangereux pour beaucoup de nos amis et pour nous. Et n'oublie pas, malgré les réformes de Josias, ce prêtre d'Anatote, ce Jérémie, prêche que Jérusalem adore encore les Baals.
Il est grand prêtre. Dis-lui de remettre en place Jérémie.
Oh, Hilkia ! Hilkia est d'accord avec lui. Maintenant, écoute. Il nous faut empêcher le roi de faire des dépenses inconsidérées pour le temple.
Ah oui, 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 oui. Qui aurait pu prévoir que l'idéalisme mal guidé de Josias inspirerait une telle générosité et que les offrandes afflueraient si abondamment.
Oui, un argent qui aurait pu servir à remplir nos coffres. Peut-être pourrions-nous néanmoins aider une partie de cette générosité à affluer vers nous.
Jahat, Obadiah, Zacharie et Meshulam surveillent la réparation et la remise en état de la maison de Jéhovah.
Ce sont tous des Lévites et des hommes fidèles. Leur manque-t-il quelque chose?
Non, il ne leur manque rien. Et de toute façon, il y a l'argent que les Lévites ont recueilli auprès de tout le peuple.
Ah, et non. Ne m'avais-tu pas dit, il y a 6 ans, que nous ne pourrions pas nous permettre de démolir les hauts lieux ni de réparer le temple?
L'argent va être dépensé en un rien de temps. Si tu ne surveilles pas chaque cycle...
La main de Jéhovah n'est pas trop courte envers ceux qui font ce qui est droit à ses yeux, Enan.
Te manque-t-il quelque chose, Enan?
Enan suggère seulement que l'on demande aux bâtisseurs et aux surveillants de tenir une comptabilité de l'argent. Peut-être en nommant un responsable pour tout superviser.
Eh oui, autrement ils pourraient facilement s'enrichir aux dépens du temple.
Et à qui penses-tu, Pachur?
Par exemple, je pourrais moi-même veiller à ce qu'on ne dépense pas un seul cycle de trop.
Dis-moi, Pachur, les hommes chargés de réparer la maison de Jéhovah, sont-ils des hommes fidèles?
Peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
Tu sais très bien que ces hommes sont des surveillants fidèles, Pachur, et toi aussi, Enan. Ce sont des hommes qui aiment Jéhovah et haïssent ce qui est mauvais.
Et il y en a qui diraient le contraire.
Eh bien, moi non. Et je ne juge pas utile non plus de confier les fonds sacrés à des gens qui préféreraient s'enrichir que d'embellir la maison de Jéhovah. Ne changeons rien.
Toi, mon fils Aïkam, on m'a dit que je pourrais te trouver ici, à la porte ouest du temple.
Ah, père, la paix soit avec toi. Jérémie vient de partir. Tu aurais dû entendre ce qu'il a dit au sujet de l'état du peuple.
Jérémie? Mais qu'a-t-il dit?
Ah, il a dit que nous devons apprendre à pratiquer la justice entre un homme et son compagnon. Le résident étranger, l'orphelin de père et la veuve ne doivent pas être opprimés. Et nous ne devons pas marcher à la suite d'autres dieux.
Mais tu vois, malgré tout notre travail, le cœur du peuple est partagé dans son culte. Il pense que la présence...
Chafon! Chafon! Je l'ai trouvé! Regarde! Je l'ai trouvé! J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de Jéhovah.
Le livre de la loi?
Oui, regarde. Écrit de la main même de Moïse.
Ah, je dois apporter cela au roi tout de suite.
Ô roi, nous avons fait une grande découverte.
Eh bien quoi? Ce vieux rouleau en lambeaux?
Plus que cela, ô roi. La réponse à tes prières, écoute. Et il adviendra sans faute que si tu écoutes vraiment la voix de Jéhovah, ton Dieu...
Arrête! Ces paroles... Que lis-tu? Mais c'est le rouleau de la loi! j'ai attendu ce jour si longtemps. Lis, Chafon, s'il te plaît, lis.
Et il adviendra sans faute que, si tu écoutes vraiment la voix de Jéhovah ton Dieu, en veillant à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, alors à coup sûr, Jéhovah ton Dieu te mettra très haut au-dessus de toutes les autres nations de la terre. Et il devra arriver, si tu n'écoutes pas la voix de Jéhovah ton Dieu, en ayant soin de pratiquer tous ses commandements, que toutes les malédictions que voici devront alors venir sur toi, jusqu'à ce que tu aies été anéanti, et elles devront demeurer sur toi et sur ta descendance. Et assurément, tu serviras dans la faim et dans la soif et dans la nudité et dans la privation de tout tes ennemis que Jéhovah enverra contre toi.
Nous avons péché contre Jéhovah.
Dois-je lire encore?
Non. Donne-moi le livre, s'il te plaît. Je le lirai moi-même. Prends Hilkia, le prêtre, et Ahikam, ton fils, et Akbor, et Azaïa, et allez interroger Jéhovah pour moi, et pour tout le peuple, et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la fureur de Jéhovah qui s'est enflammée contre nous.
Mon père, on a découvert le livre de la loi.
Le livre de la loi?
Oui, le roi a envoyé 5 hommes fidèles vers Hulda, la prophétesse qui vit dans le second quartier de la ville.
Et que leur a dit Hulda?
Elle a dit que Jéhovah promet de ne pas faire venir les malheurs écrits dans le livre. Donc Josias sera vivant.
Eh bien, avec ça, et avec la prédication de Jérémie, le peuple va suivre Josias s'il décide d'agir.
Peut-être que quelqu'un va l'assassiner, comme c'est arrivé à son père. Bien sûr, nous ne participerions pas.
C'est vrai. C'est vrai. Mais si l'un de ses fils était roi, peut-être que tout redeviendrait comme avant.
Alors, il faut agir. Le roi est en train d'envoyer rassembler à lui tout le peuple, du plus petit au plus grand.
Où doivent-ils se rassembler?
Au temple.
Alors c'est là qu'il nous faut aller. Qui était-ce?
Je ne sais pas. Je ne vois personne.
J'espère que tu as raison.
As-tu fini de copier le livre?
Oui, j'ai fini, Ahikam.
Es-tu conscient que ça ne plaira pas à tout le monde?
Tu sais, Ahikam, je dois donner le bon exemple à la nation.
Oui, mais tu es conscient également que tu ne peux pas forcer les hommes à changer leur cœur.
C'est vrai, mais je peux leur montrer comment faire ce qui est droit aux yeux de Jéhovah. Ensuite, ils devront prendre eux-mêmes position.
Le peuple est assemblé, Josias.
Es-tu prêt?
Oui. Oui, je suis prêt. Aujourd'hui, le peuple de Jéhovah prendra position pour Jéhovah, devant toute la terre. Que les nations sachent que nous ne sommes et ne serons pas comme elles.
Il y aura des princes, des prêtres et des prophètes qui se retourneront contre toi.
Oui, c'est vrai, il y aura de l'opposition. Mais Jéhovah soutient ses fidèles.
Enfin, Chafan, Jéhovah ne nous donnera-t-il pas du courage si nous faisons ce qui est droit à ses yeux?
Puis le roi monta à la maison de Jéhovah, ayant également avec lui tout le peuple, depuis le petit jusqu'aux grands, et il se mit à lire à leurs oreilles toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de Jéhovah.
Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bon, et la mort et le mauvais. Si tu écoutes les commandements de Jéhovah ton Dieu, que je te commande aujourd'hui, afin d'aimer Jéhovah ton Dieu, de marcher dans ses voies et de garder ses commandements, alors Jéhovah ton Dieu devra te bénir. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'écoutes pas, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et tu devras choisir la vie afin que tu restes en vie. En aimant Jéhovah ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Car il est ta vie et la longueur de tes jours.
Amen. Et le roi se tenait debout près de la colonne. Et il conclut alors l'alliance devant Jéhovah pour marcher à la suite de Jéhovah. Et pour garder ses commandements et ses témoignages et ses ordonnances de tout le cœur et de toute l'âme en exécutant les paroles de cette alliance qui étaient écrites dans ce livre. Alors, tout le peuple se plaça dans l'alliance.
Regarde, tout le peuple le soutient.
Et pourquoi pas? J'ai pris position, moi aussi. Je me suis dit, je peux être du côté du roi tant qu'il est vivant. Si le royaume est détruit comme Josias le craint, je serai du bon côté.
Et s'il n'est pas détruit?
S'il n'est pas détruit, dès que le roi mourra, nous pourrons revenir à ce que les choses étaient avant qu'il commence cette maudite réforme.
Tu as raison. Il nous a été facile de prendre position au milieu de cette foule d'adorateurs. Ça ne m'a pas gêné de dire amen à l'alliance.
Pas sûr. Et non. Êtes-vous avec moi?
Ce que mon cœur était avant, il l'est toujours, Monseigneur Josias.
Bien sûr, Monseigneur. Nous sommes avec toi, Monseigneur Josias.
Alors, nous purifierons ce pays et cette maison et donnerons la possibilité à tous ceux qui adorent Jéhovah de le faire d'une façon qui l'agrée.
Mais tu as déjà purifié la maison et le pays.
N'as-tu pas entendu la lecture du livre, Pashur? Hilkia.
Oui, Josias.
Le temple sera purifié complètement.
Il y a si longtemps que j'attends ces paroles.
Chafan, écris. Les ustensiles qu'on a faits pour Baal, pour le poteau sacré et pour l'armée des cieux, portez-les en dehors de Jérusalem et brûlez-les.
Et les prêtres des dieux étrangers?
Mettez fin à leurs fonctions.
Et il y a un poteau sacré que le roi Manassé a introduit dans la maison de Jéhovah.
Emportez-le dans la vallée du Cédron. Brûlez-le. Broyez-le en poussière. Jetez-en la poussière sur les sépultures des fils du peuple et ces maisons de prostituées sacrées qui sont dans la maison de Jéhovah.
Oui, monseigneur.
Démolissez-les.
Mais c'est trop. Et les adorateurs des nations qui...
N'as-tu pas pris position avec les autres?
Bien sûr.
L'ordre que je vais donner maintenant te plaira donc particulièrement. Les hauts lieux depuis Geba jusqu'à Beersheba, rendez-les un propre culte.
Ah, bien.
Et Tophet, qui est dans la vallée des fils de Hinnom, qu'on lui rende impropre au culte, pour que personne ne fasse passer par le feu à Molech son fils ou sa fille.
Il y a les chars donnés au soleil que les rois de Juda ont mis dans la maison de Jéhovah.
Brûlez-les au feu. Et voilà qui va t'intéresser, Pachur.
Ah, moi, monseigneur?
Les autels qui sont sur le toit de la chambre du toit d'Akaz, ce qu'ont fait les rois de Juda.
Oui.
Démolissez-les, broyez-les, jetez-en la poussière dans le wadi du Cédron. Les autels qu'ont bâti Manassé et Salomon, rendez-les impropres au culte.
Monseigneur, te rends-tu compte de ce que tu dis?
Les serviteurs de Jéhovah, tous ces serviteurs seront en mesure d'adorer Jéhovah exclusivement si leur cœur les y pousse.
Il y a des adorateurs de Jéhovah en Israël, au nord de Juda.
Mais c'est un territoire assyrien.
La Syrie se bat pour elle-même.
Tu ne penses pas que...
Nous sommes déjà allés en Israël, jusqu'en Nephtali. Eh bien, cette fois, ce sera complet. Chafan.
Oui, monseigneur.
Que les hommes soient prêts à se mettre à l'œuvre.
Les hommes, comme Pachur, Hénan, vas-tu les laisser impunis?
Jéhovah jugera chacun de nous selon ce qu'il a dans le cœur. Il jugera tous ceux qui ressemblent à Hénan et à Pachur.
Mais vas-tu réellement aller en Israël et démolir l'autel du veau d'or qui est à Bethel?
Oui, et même plus. Je prendrai les ossements qui sont dans les sépultures et je les brûlerai sur cet autel et je le rendrai impropre au culte. Je ferai enlever tous les hauts lieux des villes de Samarie et les prêtres des hauts lieux seront tués. Prends-tu position pour Jéhovah, Ahikam?
Ah, de tout mon cœur.
Partez, je ne vais pas tarder à vous rejoindre.
Que Jéhovah soit avec toi, Josias. Que Jéhovah te donne de la force pour cette tâche, Josias.
Et que Jéhovah soit avec toi, Ahikam. Que notre Dieu donne à tout son peuple la force de faire toujours ce qui est droit aux yeux de Jéhovah.
Alors Josias enleva toutes les choses détestables de tous les pays qui appartenaient aux fils d'Israël. Et il fit reprendre le service à tous ceux qui se trouvaient en Israël pour servir Jéhovah, leur Dieu. Durant tous ces jours, ils ne s'écartèrent pas de derrière Jéhovah, le Dieu de leurs ancêtres.
Et on n'avait jamais célébré de Pâques comme celle-là en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. Et aucun des autres rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias et les prêtres et les lévites et tout Juda et Israël qui se trouvaient là et les habitants de Jérusalem.
Ah, c'est une très belle histoire.
Ça ne m'étonne pas que ce soit ton histoire préférée, frère berger.
Josias a réellement obéi à la loi de Jéhovah, même quand il s'agissait de fêter la Pâque.
Et il a fait plus encore, Hélène. Josias a donné l'exemple au prince en faisant lui-même une offrande importante.
La vie de Josias montre bien qu'on peut être jeune et prendre position pour Jéhovah.
À propos de prendre position, frère berger, je me rends compte maintenant que je devrais vraiment prendre position et me faire baptiser. Mais mes parents ne sont pas dans la vérité.
Ce ne sera pas facile, Thomas. Mais si tu fixes tes pensées sur cet objectif, tu peux y arriver. Josias, lui, a pris position. Et en fait, si tu réfléchis, il n'était pas très différent de toi, ni de toi, Sabine.
Eh bien... Il me semble que je ne peux pas invoquer l'excuse que je suis trop jeune, maintenant que je sais ce que Josias a fait.
Mais crois-tu que je puisse assumer la responsabilité d'être un témoin baptisé, frère Berger ?
Ce n'est pas à moi de le dire, Thomas. Cependant, laissez-moi vous poser une question, à toi et à Sabine. N'as-tu pas le permis de conduire, Thomas ?
Oui.
Et toi, Sabine ? C'est bien toi qui choisis les vêtements que tu portes.
Ben oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tenue. Enfin, je veux dire...
Non, Sabine. Tu as l'aspect d'une jeune fille tout à fait correcte. Mais c'est justement ça la question. Toi, comme Thomas, vous prenez des décisions tous les jours. Choisir ses vêtements, conduire une voiture, cela vous laisse plus de liberté. Mais avec cette liberté vient autre chose qui est très important.
Qu'est-ce que c'est ?
Tu veux parler des responsabilités ?
Absolument.
Et puis, avec la liberté, n'a-t-on pas davantage de comptes à rendre ?
Oui. Vous avez la responsabilité et le devoir de vous habiller ou de conduire comme il faut. Le baptême, c'est un peu ça. À un niveau autrement plus sérieux, bien sûr. Et puisque vous semblez tous les deux aptes à assumer des responsabilités, qu'est-ce qui vous empêche de franchir une bonne fois les étapes qui restent jusqu'au baptême ?
Et le baptême ouvre aussi la porte à d'autres privilèges, comme celui du service de pionnier.
Ou le service au Bethel.
Mais il y en a qui sont baptisés et qui n'assument pas leurs responsabilités.
C'est triste, mais c'est vrai. Le baptême est une étape importante, mais ce qu'on fait après est important aussi.
Mais quand même, frère Berger, ceux qui se font baptiser ne restent-ils pas fidèles dans une grande majorité ?
Oui, y compris nos jeunes. Tiens, Thomas, prenons un exemple. Vas-tu rendre ton permis de conduire juste parce que certains automobilistes ont des accidents de la route ?
Non. Je crois comprendre. Je ne laisse pas la peur d'un accident m'empêcher de conduire. Alors pourquoi devrais-je laisser la peur de l'échec me retenir d'accepter le privilège d'être un témoin baptisé ?
Exactement.
Un autre exemple. Un jour, je voudrais peut-être me marier, avec un pionnier bien sûr. Si j'aime vraiment cet homme, je ne vais pas me retenir de l'épouser simplement parce que d'autres mariages échouent.
Tout à fait. Donc, Thomas, Sabine, si vous aimez vraiment Jéhovah, et si, comme le disent les proverbes, vous vous confiez en Jéhovah de tout votre cœur en ne vous appuyant pas sur votre propre intelligence, alors il rendra droit vos sentiers. Juste une chose encore. Vous vous souvenez de ce texte. Ayez bon courage et dites « Jéhovah est mon aide ». Si, Sabine et toi, vous placez votre foi et votre confiance en Jéhovah, il vous aidera à le servir. Il vous aidera à rester fidèle.
Eh bien, voilà qui me donne beaucoup à réfléchir, frère Berger. Je sais ce que je dois faire. Il faut que, dès aujourd'hui, je me mette comme Josias à rechercher réellement Jéhovah en étudiant davantage. Et je ne laisserai personne se mettre sur mon chemin.
Moi aussi. Je vais en parler avec maman et papa. Ils pourront m'aider à me qualifier pour me faire baptiser.
Frères et sœurs, veuillez prendre place. Le programme de cet après-midi reprendra dans 5 minutes.
Bon, on dirait qu'il nous faut prendre place. En tout cas, j'ai bien apprécié de parler avec vous. Hélène, continue ton bon travail de pionnière. Et félicitations encore, Thierry. Et vous, Sabine, Thomas, vous me tiendrez au courant de ce que vous devenez.
Thierry, je voudrais te demander un service.
Bien sûr. Quoi ?
À la prochaine assemblée, surtout, apporte ton appareil photo.
Facile
de toujours faire ce qui est droit aux yeux de Jéhovah, alors que Satan le diable gouverne le monde. Il faut être entièrement voué à Dieu, être déterminé et faire des efforts, mais on peut y arriver. Dans le monde entier, les serviteurs de Jéhovah qui se sont voués à lui y arrivent avec son aide. Par conséquent, que vous soyez jeune ou moins jeune, si la peur des responsabilités vous retient de vous faire baptiser, étudiez assidûment la parole de Dieu afin de bien assimiler la vérité et de prendre position pour le vrai culte en devenant apte à vous faire baptiser. Quant à nous, qui sommes voués et baptisés, veillons résolument à ce que notre vie soit non seulement exempte de l'esprit du monde, mais à ce qu'elle réponde aux normes de justice de Jéhovah et mette en avant son culte pur. C'est ainsi que nous, serviteurs de Dieu, pouvons espérer vivre sur la nouvelle terre parce que nous faisons effectivement ce qui est droit aux yeux de Dieu.